Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et où, on n'a pas de musique encore.
Ben non, mais je me disais, on pourrait se faire une chorale, là, rendue au nombre de personnes qui sont en studio aujourd'hui.
Que se passait-il? Ça fait deux jours qu'on n'a pas de thème. Le thème nous boude.
Il nous aime plus.
Ouais. C'est Daniel qui chante. Oui, alors l'air, on le connaît, mais on ne peut pas vous le diffuser. Ça viendra bien. Peut-être demain. C'est un suspense. Mais bonjour, les collaborateurs.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
En studio, bonjour. Je vous présente Daniel Lachance.
Bonjour.
Salut, Daniel. Vous allez nous parler de quelqu'un qu'on connaît plus ou moins, en tout cas qui est méconnu et oui. qu'on connaît peut-être plus qu'on pense.
Ah, moi-même, je ne l'ai appris qu'hier. Non, non, c'est pas vrai. Il s'agit d'un musicien quand même très connu dans le milieu des musiciens.
Ouais.
Un monsieur qui s'appelle Steve Cropper.
Cropper.
Ouais. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'il est décédé en décembre 2025. Je n'avais pas eu le temps de vous en parler à ce moment-là, mais j'ai dit que je vais me reprendre. Ça vaut la peine. Ce gars-là a eu une carrière assez impressionnante.
Un Américain.
Et vous allez entendre des chansons auxquelles il a participé autant à l'écriture qu'à l'enregistrement. Vous allez reconnaître des choses. Ça a été un guitariste assez marquant.
Serge Bradet est là avec ses bretelles.
Oui, à mes bretelles, oui.
Et Serge, vous nous amenez à Kamouraska.
Oui, oui, je vais vous parler. Vous savez, au Québec, il y avait le système seigneurial hérité du régime français. Et il y a les dames drapeaux qui ont vraiment été une dynastie de seigneuresses.
Oh oui, seigneuresse. Je ne connaissais pas ce mot.
Moi non plus, mais...
Et qu'on en apprend avec vous.
Comme c'est dans le devoir, donc ça doit être sérieux.
Ça doit être vrai.
Certainement. Et Isabelle, le microbiome ou le microbiote, là, c'est du sérieux, ça?
Ben oui, je vous parle du microbiote. Donc, les chercheurs commencent à avoir une idée de ce qui pourrait constituer un microbiote en santé. Donc, on va en parler un peu.
Daniel a entendu un microbiote enchanté.
Oui, nous, on nous parle du micro de vue et voix.
Enchanté, moi aussi.
Alors, allons-y donc avec une chanson. Est-ce que la musique, on peut la diffuser, les chansons, autres que notre thème musical, ça marche, Mathieu?
On va voir.
Ouh, j'espère pour mes audio.
Bon. Ah oui, ben je voudrais avant tout vous dire qu'à part la première heure, il y en aura une deuxième avec Caroline Fortin, qui est directrice générale et rédactrice en chef de la revue Continuité, une revue extraordinaire que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et elle va nous parler du nouveau numéro qui est consacré à l'art déco, un numéro splendide. Et on va prendre des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette. On passe ça avec une nouveauté de La Louange.
Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non, je côtoie la démence. Je tète le sein du diable qui m'allaite, j'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais, c'est un vrai plan séquence. Les voix qui ont donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, dinde, patate, c'est fini. Le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime. On assure ta descendance. La vie, c'est une grosse joke, une plaisanterie, t'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut, j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où j'aurai à ta demain.
Un artiste qui cherche, ça s'appelle il s'appelle Les Louanges, je confirme ma présence.
Un artiste qui cherche, ou qui se cherche, ou qui cherche à se renouveler peut-être? En tout cas, ça fait partie de son prochain album où il a l'intention de s'affirmer davantage politiquement parlant. C'est à suivre. À la une du Journal de Montréal, très triste affaire début d'année, inquiétant. Déjà 3 féminicides et on voit la photo d'une femme qui serait Susanna Rocha-Cruz. Tout porte à croire que le corps de Susanna Rocha-Cruz a été repêché dans le fleuve Saint-Laurent. près du Quai 22 à Québec, moins de 24 heures après qu'un ancien amoureux a été accusé de voies de fait causant des blessures. Pas moins de 3 femmes pourraient avoir été victimes de féminicide depuis 2 semaines, ce qui laisse craindre le pire pour l'année à venir, selon des intervenantes en violence conjugale. C'est une tendance qui nous effraie, laisse tomber Claudine Thibodeau de l'organisme SOS Violence Conjugale. À la une du Devoir, un outil IA pour la réussite scolaire inquiète. C'est un texte de Zachary Goudreau à l'initiative de Québec, un système d'intelligence artificielle, IA, destiné à déterminer les élèves à risque de décrochage scolaire, a été implanté dans la majorité des écoles de la province. Or, un peu plus d'un an après le début de son arrivée dans le réseau, cet outil continue de soulever des questions éthiques et des inquiétudes tant de la part d'experts que de parents. Certains envisagent même un recours judiciaire contre Québec. C'est un outil prédictif développé quelques années plus tôt par une entreprise privée pour le compte du Centre des services scolaires du Val-des-Serres en Estrie qui a incité Québec à conclure en 2022 un contrat avec le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec afin d'évaluer la perspective d'étendre l'utilisation d'un tel système d'IA ailleurs dans le réseau scolaire. Or, au moment où l'IA prend d'assaut les écoles et les cégeps au nom de la lutte contre le décrochage scolaire, de nombreux experts lèvent des drapeaux rouges. On déploie ce système-là comme si c'était banal, alors que ce ne l'est pas du tout, lance Ève Gaumont, doctorante en droit à l'Université de Montréal, qui s'est intéressée de près au développement de cet outil, car des risques à l'utilisation de cette technologie, il y en a beaucoup, confirme Simon Collin, qui est professeur au département de didactique de l'UQAM, dont les recherches s'intéressent notamment aux enjeux éthiques liés à la présence de l'IA dans le système d'éducation. Une revue systématique de la littérature scientifique sur cette question qu'il a réalisée en 2023 avec 2 autres chercheurs aborde d'ailleurs le risque qu'un système de prédiction du risque de décrochage scolaire commettre des erreurs en raison de biais qui peuvent mener à des discriminations à l'endroit de certaines populations d'apprenants, par exemple les élèves membres de minorités visibles. Et finalement, la une de la presse plus, on parle de gaz hilarant, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Drôle à mourir, protoxyde d'azote, les capsules de gaz hilarant offertes en vente libre font de plus en plus de jeunes adeptes au Québec, malgré les risques associés à leur usage, et des gangs de rue ont flairé la bonne affaire. C'est un dossier de Maïssa Ferra. Le gaz hilarant perçu comme inoffensif peut devenir nocif et même mortel. Au moment où cette drogue devient à la mode chez les jeunes consommateurs, les gangs de rue se sont emparés de ce marché clandestin, générant des tensions entre différentes cliques. Alors, comme dirait l'autre, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Avec Isabelle Falardeau, on parle de microbiome intestinal, un texte de Jean-Benoît Legault.
Oui, tout à fait, dans la presse canadienne. Donc, c'est paru en décembre, le 30 décembre. Donc, avant de commencer, je vais juste essayer de faire un petit peu la différence entre microbiome et microbiote. La meilleure définition ou comparaison que j'ai trouvée, c'est sur le site biocodexmicrobiotainstitute.com. Donc, c'est un site qui explique des termes. Donc, le titre de cet article-là, flore, microbiote, microbiome, faux amis et vrais synonymes. En gros, le microbiote, donc,
Se fait attendre.
C'est ça, se fait attendre. Donc, ça désigne toutes les communautés de micro-organismes. Les micro-organismes qui sont présents, donc il y a le microbiote intestinal, donc ça va être les micro-organismes, donc les bactéries, mais aussi les autres micro-organismes qui vivent dans cet endroit-là. Et le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes, mais aussi leurs fonctions. Donc, l'analogie qu'on donne ici, c'est par exemple, c'était l'analogie du village, là, je l'avais trouvée. Donc, si on veut faire une comparaison avec un village, donc le microbiote serait la liste des habitants et le microbiome, la liste de ce que tous les individus collectivement savent faire, comme fabriquer du pain, construire une maison, etc. Donc, la plupart du temps, quand on va trouver le terme dans un article qui parle de ce qu'on appelait avant la flore intestinale, mais ça va être le microbiote. Alors, mais dans l'article que j'ai trouvé, parce qu'en anglais, souvent, on utilise les deux termes indifféremment, et c'est traduit de l'anglais. En fait, le texte n'est pas traduit de l'anglais, mais il utilise des citations. Se base sur une étude, voilà, merci, sur tirée de la revue Nature, donc publiée en anglais. Alors,
on va essayer de vous suivre.
Je suis désolée, mais l'auteur de l'article utilise microbiome et microbiote de façon aléatoire, mais toujours pour ce que nous, on appelle le microbiote en français. Alors, c'est des chercheurs italiens donc, qui ont publié un premier portrait de ce qui pourrait constituer un microbiote intestinal en santé, c'est-à-dire quel mélange de bactéries témoigne, entre autres, avec fiabilité d'une faible inflammation et d'un système immunitaire en santé, et aussi d'un niveau de cholestérol sain. Donc, des marqueurs qui sont souvent associés à une bonne santé. C'est une étude qui est commentée qui a été commentée pour l'article par le professeur Frédéric Raymond, qui est un spécialiste du microbiome intestinal ou microbiote intestinal à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Et donc, ça apporte certains éléments de réponse à une question qui revient constamment quand on étudie le microbiote intestinal. Est-ce que les bactéries qui augmentent ou diminuent sont associées à la santé ou à la maladie? Ou est-ce que c'est entre les deux? Donc, est-ce que ça change rien? Ou est-ce qu'il y a des bactéries qui sont associées à la santé puis d'autres à la maladie? Puis quand certaines augmentent ou certaines baissent, est-ce que ça a un impact sur notre santé? Donc, c'est vraiment la question qui est la plus intéressante pour nous. Et les auteurs de l'étude ont identifié des biomarqueurs d'un microbiote en santé et des biomarqueurs d'un microbiote qui le serait moins. Et quand on parle de microbiote, on va voir dans certains cas, certaines bactéries qui sont statistiquement associées aux personnes qui ont un tour de taille plus faible, aux personnes, d'autres qui sont associées aux personnes qui ont un tour de taille plus élevé. Mais après ça, on se pose toujours des questions à savoir, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment un signe de bonne santé ou non? Donc, c'est une équipe de l'Université de Trento qui a étudié des données provenant de 34 500 personnes, donc c'est quand même une bonne quantité de personnes, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce sont des personnes qui ont participé au programme PREDICT. C'est une firme privée Zoé, donc qui se spécialise dans l'analyse du microbiome. Et les chercheurs se sont concentrés plus spécifiquement sur les 661 espèces bactériennes qui sont présentes chez plus de 20 % des participants. Parce qu'il y a vraiment des milliers d'espèces là, de bactéries. Donc, on s'est concentré sur celles qu'on retrouvait le plus fréquemment. Donc, ça a permis d'identifier les 50 qui étaient les plus étroitement associées à une bonne santé, telles que mesurées par des marqueurs comme la glycémie et l'indice de masse corporelle, mais aussi les 50 les plus étroitement associées à des problèmes de santé. Donc, on a quand même réussi à identifier d'un côté comme de l'autre. Il y a 22 des 50 espèces bactériennes qu'on a associées à une bonne santé qui n'avaient jamais été identifiées auparavant et elles semblaient plus spécifiquement impliquées dans 4 domaines. Les niveaux de cholestérol, la santé immunitaire et inflammatoire, la distribution de graisse dans l'organisme et le contrôle de la glycémie. Et on dit aussi que la science ne sait presque rien de 24 des 28 espèces restantes. Donc, il y en avait 50 là, qu'on a associées à une bonne santé, il y en avait 22 qu'on n'avait jamais identifiées auparavant, puis il y en a 24 dont on ne sait pas grand-chose. Donc, on reste quand même avec beaucoup de questions, mais on a quand même apporté certaines réponses. Il y a 44 des 50 espèces bactériennes qui étaient associées à une moins bonne santé de leur côté, qui étaient connues et qui avaient précédemment été associées à des effets néfastes. Donc, on a quand même confirmé des informations qu'on avait. par rapport aux bactéries qui sont associées à une mauvaise santé. Les participants qui étaient jugés en santé, parce qu'on ne leur connaissait pas de problèmes médicaux, avaient environ 3,6 fois plus de bonnes bactéries que les autres participants. Et les participants qui avaient un poids santé, donc là, c'est un autre indicateur de bonne santé, non pas qu'on n'a pas de problème médical connu, mais qu'on a un poids santé. Donc, ces participants-là avaient 5,2 fois plus de bonnes bactéries que les participants en situation d'obésité. Donc, c'est associé à une bonne santé et c'est aussi associé à un poids qu'on considère, je vais mettre entre guillemets santé, là, parce que j'aime pas vraiment ça quand on commence à associer le poids à la santé. Mais les chercheurs donc ont constaté que la plupart des bactéries étaient associées soit à une alimentation généralement saine et à une meilleure santé, soit à une alimentation de moins bonne qualité et à une santé plus fragile. Donc, on a quand même identifié des choses des deux côtés. Mais il y a 65 des 661 bactéries. Si vous vous souvenez, là, les 661, c'est celles qu'on retrouve chez plus que 20% des participants. Donc, il y en a 65 qui n'ont pas trouvé leur place dans cette analyse. Donc, la conclusion, c'est que la réalité est incroyablement complexe. Ça suggère qu'à l'intérieur d'une même famille de bactéries, il y a des bactéries qui peuvent être associées à une meilleure santé, puis d'autres qui peuvent être associées à une moins bonne santé. Et ça, c'est vraiment intéressant, selon le professeur Raymond. Mais ça, quand même, ça dit qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Définir la composition de base du microbiome intestinal humain, donc dans des conditions saines chez l'autre, c'est un défi de longue date. C'est la conclusion des chercheurs italiens. Ou en fait, c'est ce que disent les chercheurs italiens, mais leur conclusion, c'est quand même qu'il reste encore beaucoup de choses à étudier. Et pour relever le défi, donc, de définir la composition du microbiome, ils ont reformulé la question de ce qu'est un microbiome ou microbiote associé à la santé en évaluant les espèces du microbiome intestinal en fonction de leur tendance à être corrélées avec des scores alimentaires sains et avec le continuum d'un panel de marqueurs intermédiaires de la santé cardio-métabolique dans des populations importantes et généralement en bonne santé. Ça, c'est cité directement de l'étude et c'est pour ça qu'on comprend absolument pas ce que ça veut dire. Mais je tenais à vous le lire textuellement pour ceux qui pourraient être plus intelligents que moi et le comprendre. Mais en gros, c'est que c'est ça, ils ont identifié certaines informations, mais il reste encore beaucoup de choses à étudier. Et juste pour... j'ai pas regardé le temps, donc je sais pas, il me reste combien
de temps? Oui, il reste 30 secondes.
30 secondes. Donc, en conclusion, ils n'ont pas réussi à répondre à la question « Est-ce que c'est le microbiote qui fait la santé ou est-ce que c'est la santé qui fait le microbiote? » Dans la fameuse question de l'œuf ou la poule. Alors, ça va probablement être la prochaine question à laquelle il va falloir répondre.
Le portrait de ce que serait un microbiome intestinal en santé se précise et c'est du journaliste Jean-Benoît Legault qui travaille à la presse canadienne. Donc, ses articles se trouvent sur différentes publications, dont le Nouvelliste le 30 décembre. Et j'ai trouvé aussi le texte dans l'actualité sur le site de l'actualité.com. Ça a été publié le 18 décembre. Merci, Isabelle.
Merci.
Il faudrait de mes yeux chasser la poudrerie. Et les rires qui teintent au fond de ma mémoire. Il faudrait les briser et les jeter au vent. Mais le vent a un nom qui est Kamouraska. Il faudrait de mon cœur effacer les tempêtes. Dorme sur ma peau. Il faudrait les unir au ciel qui me déserte. Mais le ciel a un nom qui est Kamouraska. comme une bête dans le bois.
La voix de Julie Harel, dont on s'ennuie, et ça nous, me rappelle des souvenirs.
Et nous, en studio, on a eu droit à l'animation d'Hélène.
Ben oui.
Je faisais du lip-sync.
Émission diffusée en vidéo description.
C'est à cause de vous, ça, Serge Bradet, oui, qui nous parlait des Dames Drapeau, une dynastie de seigneuresses par Dave Noël, en lien avec Kamouraska.
Avec Kamouraska. Anne Hébert a écrit le roman.
Oui.
Et un film qui a été fait avec Geneviève Bujold.
Bujot.
Ouais. Ben, je te mets les Bujot.
Les années 70, hein, le film, je me souviens. Ouais.
De Claude Jutras, je pense.
Je pense que oui. Ouais.
Alors, les Dames Drapeau, leur pouvoir détonne à une époque marquée par la montée du patriarcat juridique. Mm-hmm. Au 19e siècle, les Dames Drapeau ont exercé les pleins pouvoirs sur le plus grand ensemble seigneurial laïque du Canada. L'historien Raphaël Bergeron-Gauthier a consacré sa thèse à la trajectoire étonnante de ces femmes d'influence, dont la fortune égalait celle de la famille Molson.
C'est les Dames Drapeau, c'est leur nom de famille?
Oui,
ou ils ont surnommé comme ça? Okay,
les Dames Drapeau, oui.
Je pensais que c'était un nom qu'on leur avait donné.
Bonne question, Daniel.
C'est responsabilité quelconque.
Les Dames Drapeau ne correspondent pas au profil du seigneur campagnard tenant feu et lieu au milieu de ses censitaires, du peuple.
Tenant feu et lieu?
Hein?
Tenant feu et lieu,
c'est une expression. Feu et lieu.
Que j'utilise régulièrement.
Oui, en vieux français. Là.
Moi aussi, ça paraît d'ailleurs.
C'était des seigneuresses urbaines, explique M. Bergeron-Gauthier. Leur réseau de sociabilité était composé d'importants juges de paix et d'autres seigneurs qui essayaient de reproduire les codes de l'aristocratie française d'Ancien Régime. Jusqu'à l'abolition du système seigneurial au Canada en 1854, des femmes pouvaient devenir seigneuresses par héritage en l'absence de descendance masculine, évidemment. La gouvernance de leur fief était toutefois transitoire, ce qui distingue ces seigneuresses des Dames Drapeau, dont le règne s'était tiré sur deux générations par un concours de circonstances. La sororie Drapeau. La dynastie féminine des Drapeau débute par Marie-Geneviève Noël. En 1810, la veuve de 44 ans hérite des 13 seigneuries de son mari, Joseph Drapeau, un entrepreneur dynamique qui, au moment de sa mort, venait tout juste d'être élu au Parlement du Bas-Canada, Parlement du Québec.
Beau petit lopin.
Oui. Marie-Geneviève administre le patrimoine familial jusqu'à son propre décès en 1829. Ses fiefs passent alors à ses 6 filles âgées de 30 à 41 ans. En vertu de la coutume de Paris, les seigneuries Drapeau sont transmises en bloc à la sororie. Il en était autrement en présence d'un héritier mâle, explique Raphaël Bergeron-Gauthier. S'il y a un fils et 7 filles, par exemple, c'est le fils qui rafle tout. Mais s'il n'y a que des filles, on a un partage égalitaire, égalitaire, sans droit d'aînesse. Donc, l'aîné des filles, elle est considérée comme les autres, là, alors, par égal. L'empire foncier légué aux Dames Drapeau s'étend notamment sur la prospère île d'Orléans, Rimouski, Trois-Rivières et les Éboulements, dans Charlevoix. Son administration est assurée par l'une des sœurs, Luce Gertrude. Sa gestion du patrimoine était pragmatique et sévère, constate le docteur en histoire en parlant de cette femme à la pointe de fer. Le pouvoir exercé par les Dames Drapeau détonne à une époque marquée par la montée du patriarcat juridique découlant de la mise en place de la liberté testamentaire en 1774. Il s'agit de l'une des conséquences méconnues de la conquête britannique du Canada. Les femmes avaient davantage de droits sous le régime français, car il y avait des mécanismes pour protéger leurs intérêts, explique le chercheur. On a observé une augmentation considérable des inégalités de genre dans la transmission patrimoniale après l'introduction de la liberté testamentaire britannique. En 1970, les Dames Drapeau ont été immortalisées dans le roman Kamouraska d'Anne Hébert, qui dépeint les petites seigneuresses sous les habits étouffants d'une époque austère. Le récit est inspiré d'un meurtre spectaculaire qui a porté ombrage à cette famille respectable.
Un fait divers, une vraie histoire.
Ah oui, c'est vrai. Ce fait divers concerne Éléonore d'Estimauville, la fille de l'une des Dames Drapeau. En 1839, la jeune femme de 23 ans est soupçonnée d'avoir comploté pour assassiner son époux violent, Achille Taché, seigneur de Kamouraska. Sa culpabilité ne fait pas de doute aux yeux de Raphaël Bergeron-Gauthier. Elle l'a fait tuer, lance-t-il spontanément, en évoquant le témoignage incriminant de sa servante. L'assassin n'est nul autre que l'amant d'Éléonore, George Holmes, qui s'enfuit aux États-Unis au terme de sa virée sanglante en carriole. Demeurée au pays, la veuve noire échappe à la justice grâce à l'intervention de sa mère et de ses tantes. L'appareil judiciaire a souvent été utilisé par la famille Drapeau pour asseoir son pouvoir, explique leur biographe. Des procès, elles en ont eu beaucoup. Le lustre familial est tout de même égratigné. Luce Gertrude parle d'un grand déshonneur dans l'une de ses lettres. L'abolition du régime seigneurial en 1854 est un autre coup dur pour les Drapeaux. Elles ont perdu leurs privilèges honorifiques, comme le banc à l'église, résume Raphaël Bergeron-Gauthier. Le choc de l'abolition est atténué par les indemnités généreuses offertes par le gouvernement. Les anciens seigneurs ont également pu conserver les terres non concédées à leur fief et l'essentiel des rentes que les habitants ont continué de leur payer à titre de locataires des censives qu'ils ne pouvaient racheter faute de capital. Le rapport seigneur censitaire a persisté jusqu'en 1940, rappelle le chercheur. La conjoncture a fait que cette famille a disparu du paysage par la suite. La mémoire de la dynastie féminine des Drapeaux s'est dissoute graduellement avec l'invisibilisation de leur nom à travers leur descendance au tournant du 20e siècle.
Alors, elle n'avait pas rapport avec le maire Jean Drapeau.
C'est ce que je cherchais comme lien aussi.
La conjoncture a fait que cette famille a disparu du paysage, constate l'historien. Raphaël Bergeron-Gauthier a constitué un corpus de 630 fiches d'individus réparties sur 5 générations pour étudier l'ascension sociale de la famille Drapeau, de leur milieu agricole d'origine à la haute bourgeoisie du Bas-Canada. Ce travail de moine a été réalisé à la mitaine. Et je suis probablement l'un des derniers qui vont avoir lieu à faire ça, s'exclame le chercheur en évoquant les balbutiements de l'intelligence artificielle. Parce que le post-doctorant expérimente justement le potentiel de l'IA à l'Université du Québec à Rimouski dans le cadre du projet Nouvelle-France numérique qui consiste à retranscrire les pattes de mouche des notaires du Québec anciens à l'aide du logiciel Thanksgiving. On entraîne d'abord la machine à reconnaître la calligraphie, puis on corrige, résume Raphaël Bergeron-Gauthier. La révolution en cours donne le vertige. Une fois formée à la main d'un notaire, la machine pourra transcrire son greffe au complet. En quatre ans, j'ai transcrit 10 000 plages pour ma thèse. Avec l'IA, on pourrait en faire 12 000 en 6 mois.
L'IA est partout, même en Nouvelle-France. Ouais, ouais, ouais. Les Dames Drapeau, une dynastie de seigneuresses par Dave Noël, c'est-elle dans le devoir du 7 janvier, tenir feu et lieu, une expression québécoise historique du régime seigneurial en Nouvelle-France. Je vous dis plus au retour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Alors, toujours bien qu'on parlait de l'IA avec vous, Serge. Tenir feu et lieu, c'est l'IA qui me dit que c'est une expression québécoise historique du régime seigneurial en Nouvelle-France, signifiant l'obligation pour un censitaire, un colon ou un seigneur d'établir une habitation, d'y résider, de la mettre en valeur et d'y observer des règles sous peine de perdre la terre.
Ça, tenir feu et lieu.
Oui, occupez-vous de votre foyer.
Un foyer, et, puis... Ouais.
C'est cela.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
pain. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Ah, ça fait du bien d'entendre cette chanson-là. Otis Redding pour nous parler de Steve Cropper, Daniel. C'est quoi le lien?
Steve Cropper, le lien, bon, je vais commencer par vous parler de cette chanson-là en particulier avant de parler de la carrière de Steve Cropper, parce que Steve Cropper a participé à la création de cette chanson-là. C'est une chanson qui avait été coécrite par Otis Redding et Steve Cropper. Et juste pour vous mettre dans l'ambiance, Otis Redding était très populaire déjà à l'époque. Il faisait de la tournée beaucoup. Il était souvent dans son avion privé pour faire de la tournée. Il était souvent, il restait dans des hôtels. À un moment donné, il était tanné dans les hôtels.
Oui, j'imagine, la tournée
s'épuise. Puis un de ses amis qui lui avait suggéré de rester une couple de jours sur son bateau qui était accosté dans la baie de San Francisco.
Ah, un beau projet.
Puis il se levait le matin, puis il voyait les bateaux arriver, puis repartir,
ça
puis
lui
les goélands.
Ça lui a inspiré cette chanson.
Et voilà, c'est vraiment ce qu'il raconte, Sitting on the Dock of the Bay. Il raconte seulement ce qu'il voit le matin quand il se lève.
La vie, source
tout simplement,
d'inspiration.
Et ça a fait un succès.
Un gros, gros succès.
Il avait commencé à écrire cette chanson-là. Steve Cropper, à l'époque, travaillait chez Stax Records comme musicien. Pardon, je la vois un peu. Et les deux ont complété la chanson ensemble. Et malheureusement, les deux enregistrements, parce qu'ils ont commencé à enregistrer le 22 novembre 1967, ils ont complété l'enregistrement le 7 décembre et ont rajouté des choses, des overdubs qu'on dit en anglais.
C'est quoi ça, des overdubs?
Quand on ajoute, l'enregistrement est déjà fait et on va ajouter des instruments ou des voix par-dessus. On va superposer des enregistrements. Et malheureusement, le 10 décembre, Otis Redding a eu un accident d'avion. Son avion s'est écrasé. C'était son bimoteur privé qu'il prenait pour partir en tournée. Il s'est écrasé sur le lac gelé de Monona, au Wisconsin.
Il n'y a pas eu de chance.
Il ne s'en est pas sorti. Donc, Steve Cropper a continué. Il a fait le mixage de la chanson après le décès. Et c'est lui qui a ajouté les sons de goéland puis de vagues, de la mer qu'on entend, tout ça. Il y a une chose qu'on n'est pas certain selon les différentes sources. Le sifflet qu'on entend à la fin...
Appartient à qui?
Appartient supposément à Otis Redding. Certaines personnes disent qu'il y en a un autre qui l'a rajouté par la suite. Ou peut-être qu'on entend les deux puis c'est imperceptible. Des fois, l'enregistrement, c'est juste correct, mais on n'entend pas assez. Fait qu'il y en a peut-être un deuxième qui a sifflé par-dessus. Mm-hmm. Ça, c'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est que cette chanson-là est devenue quand même le premier numéro un à titre posthume aux États-Unis. C'est quand même... En soi, c'est un exploit.
Ouais.
Il venait de finir de l'enregistrer. Lui-même, il n'a jamais entendu la version finale. Ça, c'est triste, là. Et c'est surtout devenu un très grand succès. Il n'en a jamais été conscient.
Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui meurent et qui ne sont pas au courant qu'ils sont extrêmement populaires.
Effectivement, ça arrive souvent après. La chanson, elle avait été lancée le 8 janvier 1968 par la compagnie Stax Records et donc est devenue numéro un. Et en 1969, elle a gagné deux Grammy Awards, pour la chanson « Meilleure chanson R&B » et « Meilleure performance vocale ».
Ah oui!
Donc ça, c'était un honneur pour Otis Redding.
C'est triste quand même, il n'a pas pu aller chercher ses prix.
Non, je ne sais pas, c'est peut-être Steve Cropper qui est monté sur la scène.
Ah,
ça
se peut.
J'ai pas vu ce gala, mais je doute fort que ça doit s'être passé comme ça. Et vous savez que cette chanson-là... Il y a beaucoup de monde qui la connaissent parce qu'il y a eu d'autres versions. Chez nous, ici, Michel Pagliaro, on avait fait une version en 1977.
Hein,
ça vaut la peine d'écouter ça parce qu'il y a une voix plus rauque Oui. Ça donne une autre, vraiment, une autre couleur. Et Michael Bolton, par la suite, en avait fait une aussi.
Avec sa voix rauque.
Oui, avec sa voix aussi. Donc, c'est trois versions quand même assez différentes. Et l'original dure seulement 2 minutes 41. Mm-hmm. Mais ce que j'avais compris de Michael Bolton et Michel Pagliaro, c'est qu'ils l'ont allongé un peu.
Une version extended.
Ben, mettons qu'après le sifflet, à la fin, ils reviennent avec un couplet puis un autre. Donc, ils n'ajoutent pas grand-chose. Ils font juste du copier-coller.
Je serais curieuse de savoir c'est quoi le titre en français.
Je crois pas. Pagliaro, il l'a fait en anglais.
Ah, il l'a fait en anglais,
oui,
OK.
Oui, c'était dans The Dark of the
Bay. C'était française.
Sur son album Time Race. Ça donne le ton, ça devait être tout en anglais. Donc, M. Steve Cropper, qui avait écrit co-écrit ce hit, il est né, Stephen Lee Cropper, né le 21 octobre 1941 à Dora, dans le Missouri. C'était connu comme un guitariste, auteur, compositeur, producteur, donc il était vraiment dans le milieu de la musique à plein temps, là. Il est décédé récemment, le 3 décembre 2025, à Nashville, dans le Tennessee, à l'âge de 84 ans. C'est pas très clair quand sa mort a été annoncée, il n'y avait pas trop de détails, mais apparemment, il aurait fait une chute et il a eu de la difficulté à s'en remettre et probablement qu'il est décédé des suites de cette chute-là. Quand il était jeune, il était un grand amateur, admirateur de Chuck Berry, Bo Diddley, Ray Charles, The Platters et tout ça. Et c'est un petit peu normal quand je regarde ça, je fais le calcul. Il est né en 41, donc milieu des années 50, il y a 14-15 ans. À cet âge-là, on s'intéresse beaucoup à la nouvelle musique. Et c'est là, c'est le rock'n'roll qui commençait à cette époque-là, Elvis, tout ça. Fait que c'est ça qui lui a donné le goût d'acheter une guitare et je le comprends très bien. C'est vraiment une époque où les guitaristes, c'est là qu'ils sont nés.
Vous vous identifiez à Steve?
Un peu, je suis plus jeune que lui, mais...
Qui jouait de la guitare.
j'ai connu les Steve Cropper, puis moi, c'est à eux qui m'ont influencé à apprendre la guitare. Donc, à 15 ans, ça, je m'identifie un peu, par exemple. À 15 ans, il a pris lui-même l'initiative de s'acheter une guitare pour la grosse somme de 18 $. Ben c'est US, par exemple.
Il avait ramassé son argent, 18 $ américains. C'était certainement de l'argent à cette époque-là.
Et il a commencé à prendre quelques leçons, mais rapidement, il a décidé qu'il en savait assez, puis il a décidé de se développer par lui-même.
Comme beaucoup
de guitaristes de cette époque-là, parce que le rock and roll, le blues qui est joué à l'époque, c'était de la musique très, très simple aussi. Une fois que tu connaissais 3-4 accords, tu étais incapable de te débrouiller. Fait que c'est fini les leçons, je suis capable de jouer ça. Je commence à jouer, ça finit là. Et ça a été très bénéfique pour lui parce que probablement le fait d'avoir des rencontres aussi là, qui souvent donne une bonne chance. À l'âge de 16 ans, il a déjà commencé à participer à un groupe qui s'appelait The Marquees, M-A-R, trait d'union K-E-I-S pour clé. Et ils ont enregistré un premier 45 tours qui s'appelait Last Night en juin 1961. Et c'est devenu un succès, classé numéro 2 au classement R&B en 1961. Donc, on va en écouter un petit extrait très court, là, mais ça donne le ton.
On est vraiment dans le son des années 60.
Ah oui, ça donne vraiment le ton. Ça fait penser un peu à Soul Bossa Nova de Quincy Jones.
Oui,
ça fait penser un peu aussi à Tequila. Il la tourne en dure 3 minutes, puis à un moment donné, il s'arrête puis il dit juste un mot.
Ça fait penser, au film de Peter Sellers.
Oui, mais exactement.
J'ai pensé aux Monkees quand ça a commencé.
Oui, les Monkees, c'est arrivé quelques années après. Fait que c'était vraiment le son qui était à la mode début des années 60. C'était très, très, très simple. Une chose intéressante, c'est que c'est le premier enregistrement qu'il a fait avec les Monkees. Et il ne jouait pas de guitare
là-dessus.
Et non, les Monkees. Marquees. Et il ne jouait pas de guitare là-dessus. Il jouait juste une note sur le clavier. Il y avait deux claviers.
On l'entend, le clavier.
Donc, ça commençait quand même assez bien pour un jeune comme ça, expérience de studio. Il a vraiment pris goût à ça. Et en plus, un des membres des Marquees, c'était nul autre que Donald Dunn, qu'on appelait Donald Duck Dunn, parce qu'apparemment,
il
peut être un petit peu rigolo aussi par la rime. Peut-être aussi parce qu'il avait les pieds palmés, on ne sait pas.
L'histoire ne le dit pas.
L'histoire ne dit pas tout. Ils se connaissaient depuis le primaire, depuis la sixième année. C'était deux chums, c'était comme deux frères. Ils étaient tout le temps ensemble. Donc, le jouer ensemble aussi en studio, ça devait leur donner beaucoup de confiance. Donc, en 1962, juste un an après, ils ont commencé à faire des enregistrements. Ils étaient engagés par la compagnie Stax pour enregistrer pour d'autres artistes. Et une bonne journée, un chanteur qui était absent, donc les gars ont décidé de travailler sur autre chose, enregistrer des trucs. Et là, il y avait le claviériste qui était Booker T. Jones. Ils ont enregistré deux pièces instrumentales. Il y en a une parmi celles-là qui est devenue très connue. Ça s'appelle « Green Onions ». C'est classé...
Oui.
Il s'est classé au premier rang du palmarès c'est pas R&B cette fois-ci, c'est au palmarès rock'n'roll, il est numéro 3 palmarès pop, et le groupe Booker T et NDMGs venaient de naître. Parce que là, on dit, OK, là, on tient quelque chose, on n'est pas juste des musiciens de studio qui enregistrent pour les autres.
Grâce aux oignons verts.
Grâce aux oignons verts, on va commencer à faire notre propre carrière. Et en passant, le Green Onions, je voulais garder pour la fin, parce que vraiment, c'est la pièce... probablement la plus simple aussi, mais c'est la pièce probablement la plus connue de Booker T and the MGs, à laquelle Steve Cropper a participé aussi, à la création et à l'enregistrement. Et ça a été repris plus tard par d'autres et par nul autre que les Blues Brothers.
Ah oui!
Steve Cropper fait partie des Blues Brothers et il jouait cette chanson-là en spectacle. Donc, je trouvais qu'elle était marquante. On la garde.
C'est vrai que c'est un verre d'oreille aussi.
Oui, oui. Fait que ça va être des oignons pour le dessert.
Okay.
Ça...
des oignons caramélisés. Non,
oui.
Ils sont green.
Ils sont green, eux autres. Bon, ils sont forts. Ils doivent faire couler les yeux. Donc, ils sont devenus le groupe maison de Stax. La compagnie Stax a décidé, tous les artistes qui vont venir enregistrer ici, ça va être vous qui travaillez pour les... Un peu comme Motown avait fait aussi. Il y avait leur groupe, c'était les mêmes musiciens qui enregistraient, tous les groupes qui enregistraient là. Donc, ils ont travaillé avec Otis Redding, bien entendu, Sam and Dave, Wilson Pickett, Rufus and Carla Thomas, Albert King, et etc. Isaac Hayes aussi. Donc, ils ont travaillé avec du monde assez important. Et d'ailleurs, on va écouter... Il y a surtout, je dirais, avec Sam and Dave, qui a plusieurs chansons, des petits extraits qu'on a connus. On va écouter un extrait. Yeah.
Wow, ça se termine avec Martin Sally. Est-ce que vous dansez dans votre garde-robe, Isabelle?
C'est
plus... Je dansais
avec ma tête.
Vous dodelinez parce que ces airs-là sont irrésistibles.
Oui, c'est toutes des choses vraiment. Qui sont très connues. Il y en a plusieurs qui ont été reprises par d'autres. On a entendu Sweet Soul Music. Ensuite, on a entendu Soul Man qui a été reprise plusieurs fois et surtout par les Blues Brothers qui le font encore aujourd'hui. Oui. Hold On, I'm Coming. I Thank You, ça avait été repris par ZZ Top. La chanson 634-5789 Soulsville, USA, ça c'était tout simplement le numéro de téléphone du studio. Land of Thousand Dances, le na-na-na-na-na, il y a plein de monde qui a joué ça aussi. Ah, oui, là, c'était la version Sam and Dave, Wilson Pickett l'a fait aussi. Il travaillait pour la même compagnie, Stax Records.
Quand j'entends ça, je suis en train de danser à Cabane à sucre.
Ben, c'est justement le genre de chanson...
Avec le jukebox.
Ouais, c'est justement le genre de chanson que les producteurs disaient, lui, il l'a fait, mais c'est pas grave. Fais-la toi aussi, on va la diffuser ailleurs, ça va marcher. C'est sûr. Oui. Et ça a marché. Et bien entendu, ah ouais. Mustang Sally, tout le monde connaît ça. Tout le monde joue ça encore aujourd'hui. Et même que, à un moment donné, à la fin des années 90, j'avais parti un trio de blues avec deux autres musiciens. Puis on s'était entendu sur une chose. On va faire des choses qu'on aime faire. Et on va avoir des choses, des restrictions au départ. Il y a des trucs qu'on ne touchera pas parce que c'est trop brûlé, on est tanné. On a dit Mustang, ça allait, fini, on ne jouera jamais ça.
Non!
On doit l'avoir joué 1000 fois. Il y a tout le temps une place que quelqu'un qui est Mustang, ça allait.
Mais c'est bon. Fait que, oui, mais c'est sûr que quand ça fait un million de fois que tu as joué.
Là, je te parle d'un band qu'on a parti à la fin des années 90. Cette chanson-là date du début des années 60. On l'avait fait en masse.
Est-ce que vous la jouez encore? Parce que vous faites partie de band encore?
Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Il y a tout le temps quelqu'un qui crie ça. Puis que là, le monde dit ah oui, ah, OK.
Mais on ne peut pas résister.
Effectivement. Oui. Et d'ailleurs, les musiciens sont là pour amuser, pour divertir.
Alors toute
on
cette
dit,
musique-là
oui.
est en lien avec Steve Cropper.
C'est toujours
qui
Steve
nous a quitté
Cropper,
le 3 décembre 2025.
Ouais, le musicien, le guitariste en studio. Et je vous ai parlé que bon, le groupe Booker T and the MGs est devenu le groupe maison de la place. Et ils ont eu une carrière à eux aussi, surtout de l'instrumental, par exemple. Mais surtout, à la, je dirais, je pense qu'en 73, ils ont sorti un album qui s'appelait Melting Pot. Et il y a des choses là-dessus quand même qui ont été un peu connues. Mais moi, je me souviens, dépendamment de ce qu'on écoutait, quel poste de radio on écoutait, ça sonnait un peu plus jazzé un peu.
Ouais?
Je pense qu'ils cherchaient un style entre pop, jazz, fusion, abordable, populaire.
Explorer.
Ouais, explorer. On va écouter quelques extraits un peu plus courts.
Hey, on a plein d'instrumentaux pour notre émission. Merci, Daniel.
Je vous donnerai les références.
Oui, avec grand plaisir. Il y en a que je reconnaissais. Oui. Là. Vous pouvez nous les présenter,
oui,
les pièces?
Oui, parce que ces pièces-là, c'était Sunny Monday, Kinda Easy Like, Melting Pot et Chicken Pox. C'était toutes des chansons tirées de leur album Melting Pot de Booker T and the MGs. Et suite à ça, Steve Cropper a ouvert son propre studio d'enregistrement parce que là, il était rendu assez expérimenté, il voulait voler de ses propres ailes. Et ça, je l'ai appris juste récemment. Je savais qu'il avait joué avec plein de monde parce qu'il était un musicien de studio. Il a collaboré avec des artistes comme John Lennon. Mm-hmm. Il a participé à l'album Rock and Roll en 1975 de John Lennon. Il a participé au premier album solo de Ringo Starr, celui sur lequel il y a Your 16, Photograph et tout ça, en 1973.
Il s'est frotté au Fab Four.
Au moins deux des Fab Four, au Fab Two. Puis il a travaillé aussi avec Rod Stewart de Jeff Beck Group. On s'entend que Jeff Beck, on se dit pourquoi il aurait besoin de Steve Cropper tout un temps. Quand même, il a fait des enregistrements avec Jeff Beck. Roy Orbison, José Feliciano, et même des Français, ça m'a surpris. Eddie Mitchell, Véronique Sanson et Axel Red. Il a joué avec ces personnes.
Axel Red, ça m'étonne. Ouais, Véronique Sanson moins. Là.
Peut-être que, question de studio aussi, il avait besoin d'un guitariste disponible. C'était peut-être dans son studio à lui. Il dit, c'est moi qui joue.
Ça se peut bien.
Fini, là. Je sais pas.
Puis les artistes ne s'obstinaient pas parce que c'est un grand talent.
Bien, j'ai lu plusieurs commentaires justement sur lui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un guitariste impeccable, mais impeccable pour moi, c'est pas nécessairement ça que j'aime.
Ah oui, c'était trop propre.
Trop propre, en retenue. D'ailleurs, son dans certaines chansons, je le trouvais tellement mince que non, mais ça aurait pris quelque
chose.
Mais
dans les extraits que vous nous avez fait entendre, il y a quand même de la bonne guitare.
Non, je ne parle pas de tous les extraits.
Okay. Est-ce qu'il a remporté des prix? Est-ce qu'il a été reconnu?
Il avait remporté
des prix. Par la communauté de musiciens.
Oui, bien, il a remporté surtout des prix pour certaines compositions, là, comme j'avais mentionné au début. Ouais. Pour Sitting on a Dock of the Moon. Je pense qu'il y a eu une mention spéciale à un moment donné, genre un doctorat honorifique.
On va écouter Green Onions.
Oui, ça, c'est la pièce clé de Booker T and the MGs.
Thank you.
Oignon vert, Green Onions, si vous préférez. Green... C'est le titre original.
Green Onions, qui était dans le fond le premier enregistrement de Booker T and the MGs et qui est devenu un grand succès et qu'on entend encore aujourd'hui, qui a été repris par The Blues Brothers.
Oui, et dans laquelle on entendait la guitare de Steve Cropper qui nous a quittés le 5 décembre. Merci beaucoup à mes trois collaborateurs du mercredi.
Merci.
Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours, tenant la pose, quand les regards l'éclaboussaient, elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre aux plaies profondes, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse. Ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
Antoine Élie, sa chanson La rose et l'armure.
Le nouveau numéro du magazine Continuité se consacre à l'art déco, numéro splendide. Et pour en parler, j'accueille au bout du fil Caroline Fortin, qui est à Québec, je crois bien. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Caroline, qui est directrice générale et rédactrice en chef de la revue Continuité. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, en fait, en quelques phrases, là, c'est quoi l'art déco?
Oui, en fait, c'est un mouvement qui a été architectural, mais pas que. Donc, ça l'a inspiré des designers, des artistes. Donc, c'est tout un mouvement qui a débuté dans les années 1920 puis qu'on a consacré et appelé art déco plus dans les années 60. Puis, en fait, c'est qu'il y a comme une grande rétrospective en ce moment en France. On célèbre les 100 ans de l'art déco. Puis, c'est plus discret ici au Québec, mais il y a eu tellement un grand impact de l'art déco sur l'architecture, sur certains intérieurs art déco, sur certaines créations d'art, créations de meubles, d'objets. Donc, on retrace un peu l'histoire de l'art déco puis l'impact que ça a eu sur le Québec dans le numéro.
Vous avez assisté au vernissage de l'exposition 1925-2025, 100 ans d'art déco au Musée des arts décoratifs de Paris. Je vous trouve très, très chanceuse. Mais
oui.
On peut quand même toujours la visiter, hein, je pense, jusqu'en avril de cette année.
Oui, 26 avril 2026.
Racontez-nous un petit peu votre expérience. Qu'est-ce que vous en avez retenu?
Oui, en fait, ça a été une expérience incroyable. J'ai été invitée au vernissage exclusif à la presse. Donc, c'était un moment... c'est comme avoir le musée pour soi.
Ah, wow! Quel privilège!
Ah oui, je déambulais seule dans les salles. C'était vraiment magnifique. Puis, en fait, c'est que il y a tellement une grande... L'art déco a une grande influence en France. C'est d'ailleurs là que c'est né. Puis, il y a eu une grande, grande exposition en 1925 à Paris. Puis, il y avait des grands pavillons qui étaient un peu partout autour de la scène. Puis, ça a eu un impact marquant pour l'histoire de l'art déco. Justement, il y a des architectes québécois qui ont été visiter l'exposition en 1925, qui a ramené un bagage de connaissances ici au Québec. Puis, évidemment, nous, on l'a adapté pour nos conditions nordiques, notre imaginaire nordique également. Mais ça retrace un peu l'exposition 1925-2025 au Musée des arts décoratifs. Ça retrace cette exposition-là, puis aussi toutes les inspirations et les créations qui en ont découlé à travers le temps.
Alors, c'est un texte à lire de Caroline Fortin, avec qui je parle en ce moment, plus élaboré. Retour aux années folles où vous nous racontez votre expérience suite à votre visite privilégiée de cette exposition. Et aussi, vous signez un autre texte, Carnet de voyage d'une rédactrice en chef, où vous nous confiez être tombée en amour le 7 octobre 2025. Racontez-nous un peu plus votre coup de cœur, votre coup de foudre.
Oui, en fait, c'est que j'ai eu la chance, j'ai fait un voyage, une mission en France pour le magazine Continuité. Puis, j'ai dû aller au rendez-vous d'histoire de Blois, en France. Puis, c'était l'occasion aussi de visiter le château royal de Blois. Donc, c'est mon coup de cœur du voyage, c'est la visite du château. Donc, on n'a pas tellement ces occasions-là ici au Québec de visiter un vieux château. Donc là, j'en ai profité. Je retrace un peu cette expérience-là dans le numéro, donc avec des magnifiques photos du château. Puis il y a aussi eu des conférences dans le château. Donc moi, c'est sûr que j'en ai profité pour aller m'asseoir puis juste admirer l'architecture pendant une heure, tout en écoutant évidemment la conférence, mais c'était du bonbon.
Ah, on en est convaincu. Et dans cet article-là, vous parlez de votre découverte. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà ça, mais moi, j'en avais pas entendu parler encore. Les MOOCs, M-O-O-K-S, c'est comme ça qu'on prononce. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, en fait, c'est une contraction entre magazine et book. Puis, c'est un mouvement qui est assez fort en Europe et qui tend à se populariser. Puis, c'est vraiment une sorte de magazine qui est un peu plus pensé pour être conservé. Donc, continuité, c'est la même chose. Nous, 85% de nos lecteurs conservent la revue pour en faire une collection. Donc, c'est pas que des magazines comme dans le temps où c'était consommé, jeté.
Oui.
Puis, où on réfléchit à comment est-ce qu'on peut éclater le format. Donc, on rajoute de la BD, on rajoute des illustrations, on met de la nouvelle, de la poésie. Ça reste un contenu informatif, mais c'est dynamisé puis c'est plus créatif. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup à continuité. Donc, j'ai été puiser de l'inspiration là-bas en France pour voir qu'est-ce que je préfère pour justement m'amuser avec le magazine puis faire des belles surprises aux lecteurs pour les prochains numéros.
Oui, et trouver peut-être un mot en français pour désigner...
Oui.
Cet objet entre le livre et le magazine. Alors, c'est dans continuité qu'on trouve ça. Et vous diriez que l'art déco, vous en avez parlé tantôt, l'art déco se retrouve au Québec. Il y a d'ailleurs un grand article là-dessus signé Sandra Cohen-Rose à la page 21. Et comment ça se reflète au Québec? De multiples façons, là, mais donnez-nous quelques exemples.
Oui, en fait, il y a certaines iconographies qui sont propres au Québec, qui sont utilisées. Par exemple, on utilise l'iconographie du castor ou de la chute d'eau ou même des motifs hivernaux. Donc, ça, c'est des choses qui sont propres au Québec. Mais l'art déco, c'est surtout des lignes franches. C'est le mouvement qui succède l'art nouveau, qui est plein de fioritures, plein de décorations. Donc, on a... peut-être des lignes un peu plus franches là, pour l'art déco. Puis, parmi les bons exemples au Québec, on peut penser au pavillon Roger Gaudry à l'UDM à Montréal.
Ah oui, le pavillon central, là?
Oui, exact. Donc ça a été fait par Ernest Cormier, qui est un architecte fort de l'art déco ici au Québec.
Oui.
On a aussi l'édifice Aldred, qui est comme peut-être moins connu du grand public, mais on a des magnifiques photos dans le magazine de l'intérieur. Donc l'intérieur est très, très bien
préservé. Ah, c'est de toute beauté. Magnifique. J'ai pris l'adresse en note, le 507 Place d'Armes, suite 501, et j'invite les gens à regarder ces photos dans la continuité, mais aussi, je ne sais pas si on peut entrer comme ça, là, parce que ça reste...
En théorie, c'est un hall d'entrée. Donc, nous, notre photographe, elle est rentrée, elle a fait ses photos, elle est repartie, il n'y avait pas de souci.
Ah, le hall d'entrée vaut le détour. Alors,
oui, c'est ça.
Ça, c'est l'édifice Aldred.
Oui, exact. Le reste, c'est des bureaux et compagnie dont on n'a pas accès, mais le hall d'entrée, effectivement, il vaut le détour. C'est là qu'il y a tous les beaux ornements là, en art déco.
Ah oui, ça a été construit en 1931. Et vous parliez d'Ernest Cormier. Il est aussi associé à cette magnifique maison qu'a habité Pierre-Éliott Trudeau là, pendant au moins une vingtaine d'années sur l'avenue des Pins.
Oui, absolument. Donc, c'est sûr que Cormier a laissé un grand, grand héritage architectural au Québec. Puis justement, on retrace son parcours puis son portrait dans le magazine.
Il y a aussi la salle du restaurant, le 9e, là, qui est maintenant ouverte, réouverte. C'est comme un phénix, là. Elle a renaît de ses cendres. Mais je cherche le mot, le
oui,
bon verbe.
Elle a été restaurée.
Oui.
Oui. Ben, en fait, il y a une restauration qui est assez exceptionnelle. Puis moi, dans le milieu du patrimoine, c'est assez unanime que ça a été fait dans les règles de l'art, le cachet art déco, puis les éléments principaux, en fait, tout a été conservé. Il y a eu certaines restaurations douteuses dans les années 80, ça c'est parti. On revient à l'essentiel, on revient au début art déco. Puis on a évidemment des magnifiques photos dans la revue, puis c'est également un monument fort là, de Montréal pour l'art déco. Donc ça valait vraiment des tours. Puis, si on sort de Montréal, il y a aussi la salle J. Antonio Thompson à Trois-Rivières.
Oui, qui s'appelait donc, le Théâtre Capitole.
Oui. Donc, c'est un théâtre où l'intérieur a été fait par un designer d'intérieur art déco. Donc, il a fait des peintures à la main à l'intérieur. Il y a des ornements art déco. C'est aussi vraiment un bel exemple d'art déco, puis ça a été, ben ça, il va avoir une restauration cette année en 2026, puis le cachet architectural et patrimonial va demeurer. Donc, c'est une préoccupation des architectes.
Ah oui, la salle est vraiment belle. Briller de mille feux, c'est l'article qui parle de cette salle. J. Antonio Thompson, Maurice Gagnon, qui signe le texte. Et on apprend qu'Emmanuel Briffa a été un des décorateurs de théâtre les plus prolifiques en Amérique du Nord.
Oui.
Il y a le Rialto, l'Outremont à Montréal, le Granada Sherbrooke qui porte sa marque. C'est vraiment un numéro passionnant. On apprend plein de choses. Et vous avez eu la bonne idée aussi d'interviewer Dino Boum Barou, qui est un passionné et un protecteur du patrimoine.
Oui, qui travaille depuis, je dirais toujours, à Héritage Montréal. Il est là depuis de nombreuses décennies, puis il apporte un regard presque historique sur l'évolution du patrimoine à Montréal. Donc, comment est-ce que c'était perçu avant? Donc, avant, il y avait plus l'idée de « on démolit puis on reconstruit en neuf ». Jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on est un peu plus conscientisé sur conserver notre patrimoine.
Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, de sensibilisation, mais il ne faut pas lâcher, comme le fait Dino Boum Barou, c'est à lire dans continuité. Et aussi, en terminant, Caroline Fortin, si on sort un peu du sujet, le magazine Continuité est à la recherche de photos de vacances au Québec pour un éventuel numéro, j'imagine? Un prochain numéro?
Oui, absolument. C'est le numéro d'été. Ça va être patrimoine et villégiature. Puis on cherche des photos d'archives familiales. Donc là, on se lance dans le patrimoine familial. Puis ce qu'on veut, c'est des photos de vacances. Ça peut être, par exemple, les grands-parents, les parents, puis ou même les enfants qui ont repris la même photo des années et des décennies plus tard au même endroit, par exemple.
Des vraies photos papier, là.
Oui, ben des vraies photos d'archives. Puis au pire, on s'organisera pour les numériser en haute résolution, mais mm-hmm. l'idée, là, c'est vraiment de partager le patrimoine familial de nos lecteurs. Donc, ça, c'est possible de m'envoyer les photos à mon adresse courriel direction@commercialmagazinecontinuité.qc.ca.
Parfait. Et j'imagine qu'une fois que vous les avez numérisés, si c'est le cas, vous, oui. vous les envoyez au destinataire par la suite.
Ben, en fait, ça va être publié dans le magazine. On va avoir un article spécial sur le patrimoine familial des villégiatures.
Oui, mais s'il y a quelqu'un qui décide d'envoyer des vraies photos, là, son album photo.
Oh, oh non!
OK, parce que là, vous avez donné votre adresse courriel, alors on peut...
Oui.
Mais est-ce non, qu'on peut vous envoyer des photos par la poste aussi?
Non, ça, je ne peux pas traiter les photos par la poste. Donc, on va vraiment... Les photos sélectionnées vont être traitées directement avec les personnes concernées. Alors, ils peuvent m'envoyer une photo de la photo par courriel.
Bon, merci de la précision. Oui. Et cet appel ne s'adresse pas aux photographes professionnels, là?
Non, c'est vraiment du patrimoine familial, quoique les photographes professionnels prennent aussi des vacances. Donc, je ne serais pas fâchée de recevoir des belles photos de vacances également.
Parfait. Et j'ai lu que vous aviez un intérêt particulier pour les motels, les haltes routières, les road trips en auto, en voiture. Oui.
Oui, absolument.
Continuez.
Oui, jusqu'à maintenant, on a reçu des super belles propositions. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans le numéro.
Alors, rappelez-nous l'adresse pour envoyer nos photos de vacances.
Oui. direction@commercialmagazinecontinuité.qc.ca.
Parfait. J'avais rédaction, mais c'est direction.
Ah, les deux fonctionnent.
OK. direction@commercialmagazinecontinuité.qc.ca. Et le magazine Patrimoine moderne, célébrer l'art déco, est maintenant disponible depuis quelques temps quand même?
Oui, ben depuis décembre, donc c'est quand même assez neuf.
Oui, et le prochain portera sur...
Ça va être sur le patrimoine et les inondations, donc vraiment plus les crues printanières. Comment est-ce que ça impacte notre patrimoine bâti puis notre patrimoine paysager? Puis quelles solutions sont à notre portée, considérant que la crise climatique ne sera pas terminée de si tôt?
Non, absolument, malheureusement. Alors, vous êtes complètement dans l'actualité. On va certainement se reparler lors de la sortie de ce prochain numéro. En attendant, j'invite les gens à lire, à découvrir, à admirer ce beau magazine, célébrer l'art déco. Et ça donne envie d'en savoir davantage, moi. Je savais pas qu'il y avait vraiment une fondation, une communauté là, qui était passionnée par l'art déco. Justement, oui. Sandra Cohen-Rose, qui est la présidente fondatrice d'Art déco Montréal et aussi l'autrice de Norton Déco, Art déco architecture à Montréal. Et c'est un site intéressant qui n'est pas nécessairement actualisé, là, mais il y a quand même des bonnes choses à trouver là-dedans. Merci, oui. Caroline Fortin.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes la directrice générale et la rédactrice en chef de Continuité.
Merci.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino, el destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
On prend des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour, Hélène.
À tout seigneur, tout honneur, on commence avec une nouvelle tirée de Franco-Presse. La francophonie canadienne a-t-elle besoin de sa propre loi 101? Grande question.
Effectivement, puis c'est une question qui est posée dans un texte publié en début d'année, là, la semaine dernière, par un professeur émérite de l'Institut national de recherche scientifique, Mario Pollez. Il explique, il exprime dans un texte publié la semaine dernière qu'il s'inquiète pour le français dans les autres provinces canadiennes. Il se demande si on ne devrait pas aller plus loin que certaines dispositions, aussi loin que certaines dispositions de la loi 101 à la fin des années 70, comme obliger des familles francophones et des familles immigrantes francophones à inscrire leurs enfants dans les écoles francophones et peut-être ainsi augmenter le poids démographique de la francophonie canadienne qui, rappelle-t-il, diminue depuis de nombreuses années. Pour lui, la loi sur les langues officielles et l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ça c'est l'article qui donne droit à l'éducation de la langue de la minorité, c'est des dispositions qui ont été créées pour répondre à un besoin à une époque spécifique et qui avaient leurs limites. Aujourd'hui, parce qu'elles ne forcent pas l'éducation en français, ces mesures-là seraient davantage des instruments d'assimilation. Il y a plusieurs questions qui peuvent être soulevées, par contre, par sa proposition, entre autres, est-ce qu'on pourrait obtenir l'appui d'au moins 7 provinces représentant 50 % de la population pour modifier l'article 23, qui est carrément qui fait partie de la Constitution, dans le fond? Comment aussi on peut définir les familles francophones qui vont avoir des enfants qui vont être obligés d'envoyer de les envoyer à l'école francophone? Parce qu'en francophonie canadienne, il y a beaucoup de familles, ce qu'on dit exogames, c'est-à-dire qu'il y a un parent francophone et un parent anglophone. Donc, dans quelle école devra aller cet enfant-là s'il a le droit aux deux? Il y a un autre professeur à qui j'ai parlé qui rappelle que la loi sur les langues officielles puis sa disposition qui vise à rétablir le poids démographique des francophones au niveau de 1971 est toute nouvelle. On n'a même pas encore atteint les cibles d'immigration qui permettraient de le faire. Donc, il suggère d'être patient puis d'attendre de voir les résultats, les impacts de la loi.
Gros dossier, donc. Par ailleurs, Woodstock s'oppose à l'aménagement d'une école francophone sur son territoire. C'est dans Acadie Nouvelle.
Woodstock, c'est une ville au Nouveau-Brunswick. Puis en décembre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé la construction d'une école francophone dans cette municipalité-là, qui est dans le centre-ouest du Nouveau-Brunswick, là, près de la frontière avec le Maine, juste à l'ouest de Fredericton. Ce serait la première école francophone dans cette ville-là. Puis juste avant Noël, le conseil municipal a décidé d'écrire et d'envoyer une lettre au ministère pour exprimer son opposition à la construction de l'école. La mairesse croit qu'il n'y a pas assez de familles francophones pour la remplir. J'ai regardé, selon Statistique Canada, il y a environ 10 % de la population de Woodstock qui est francophone. La mairesse dit aussi que les écoles existantes anglophones de la région ont déjà besoin de plus d'espace et de rénovation. La société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick répond qu'elle se dit découragée par la réponse du conseil de ville. La présidente de la société rappelle que l'éducation française, c'est un droit. C'est pas, on n'a pas demandé la permission, on a le droit de l'avoir. Puis dès qu'il y a un nombre suffisant d'élèves, les provinces doivent construire une école pour qu'ils puissent recevoir leur éducation en français.
Et maintenant, vous parlez d'une nouvelle connexion ferroviaire entre le Nord et Toronto à l'horizon.
Une nouvelle ou un retour. Le gouvernement de l'Ontario a présenté la semaine dernière le premier train qui va assurer la connexion entre Timmins et Toronto. Il y a 10 ans, cette liaison-là existait, puis c'est le gouvernement libéral qui a mis fin pour des raisons économiques, on avait dit à l'époque. Les conservateurs ont promis de rétablir le service. Initialement, c'était prévu pour 2025. 2025 est passé, donc ça va être quelque part en 2026. On n'a pas le date exact, mais au moins, on a un nouveau train qui a été présenté, puis la construction de la nouvelle gare à Timmins, qui va être un des terminales, avance bien. On a aussi fini la construction d'une voie de contournement à North Bay pour éviter la cour de triage. Il va y avoir 3 nouveaux trains, avec chacun une locomotive et 3 wagons pour assurer la connexion. Des trains modernes avec le Wi-Fi, des adaptations pour l'accessibilité, puis des sièges beaucoup plus confortables. C'est important parce que le trajet de 740 km va durer environ 10h40 minutes, là, si on le fait au complet. Il va y avoir 13 arrêts entre les deux, plusieurs villes dans le nord et dans les Muskoka, entre North Bay et Toronto. La fin du service avait été décriée à l'époque parce que les habitants du nord s'en servaient, surtout les gens plus défavorisés qui avaient des rendez-vous médicaux à Toronto. C'était une connexion assez simple, là, puis c'est quotidien. Puis surtout que si on veut se déplacer comme ça par la route, c'est pas toujours sécuritaire, surtout pas en hiver dans le nord.
Ouais. Pensez-vous le prendre?
J'aimerais ça, mais j'en parlais avec ma conjointe. North Bay, c'est quand même. Il faudrait faire une heure de route pour aller prendre le train, mais ça pourrait être intéressant de le dire.
Oui, un beau voyage en train. Le Manitoba lance sa nouvelle carte de santé numérique.
La province a fait un bond technologique ou un saut technologique assez important juste en un an parce qu'en 2024, apprend-on dans le texte, les cartes de santé au Manitoba étaient encore uniquement en papier. Le gouvernement a annoncé en 2024 dans son budget qu'il passait au plastique en 2025, puis au numérique en 2026. Fait que c'est ce qui a été annoncé cette semaine. Depuis lundi, les Manitobains peuvent télécharger l'application Portefeuille Manitoba sur leur téléphone portable, puis ils peuvent y ajouter leur carte santé. C'est pas obligatoire. La carte, les cartes papier vont continuer à être acceptées, les nouvelles cartes plastiques aussi. Mais si ils veulent l'installer sur leur téléphone, ils peuvent le faire. C'est la deuxième province à avoir ce type de carte numérique-là pour la carte santé. La première, c'était l'Alberta qui l'a lancée l'année dernière. Puis de leur côté, on prévoit déjà que dans ce portefeuille-là, on va pouvoir aussi avoir notre permis de conduire, notre permis de pêche, puis ces autres types de permis provinciaux-là. Mais eux aussi précisent que ce n'est pas obligatoire.
Et pour conclure, une pluie de record de température sur le Nunavut et l'île de Baffin depuis la fin de l'année.
C'est le Nunavut qui a fait une... qui nous rapporte ça. C'est l'est de ce territoire-là qui a connu des chaleurs anormales autour de la première journée de l'année. Il y a certains endroits qui ont enregistré des températures qui pouvaient atteindre, qui tournaient autour de 30 degrés au-dessus des normales saisonnières.
Oh, il y a 30.
Oui, c'est un phénomène relativement normal parce que ce qui s'est produit, c'est qu'une partie du courant jet qui, sous la pression de l'air chaud venant du sud, s'est décroché puis est descendu sur le Québec. Si vous vous souvenez, début de l'année, 31 décembre, puis 2-3 décembre, il faisait relativement froid dans la région. Mm-hmm. Bien, c'est ça qui est arrivé. Puis l'air chaud a pris la place du courant jet qui s'est détaché à cet endroit-là. Ce qui fait que, oui, il faisait froid au Québec, mais il faisait très chaud sur la terre de Baffin. Donc, c'est pour ça qu'on a observé ces températures-là autour de zéro. Je vous disais, dans certains endroits, c'était autour de 30, là, mais en moyenne, c'était 20 degrés au-dessus de la normale, qui est de moins 20 degrés à ce moment-là de l'année. Mais on était un petit peu au-dessus du zéro, là, c'était 1 ou 2 degrés environ. Et on parlait à un Inuit résident de Iqaluit qui raconte que cette période-là de l'année, habituellement, la chasse en motoneige commence. Mais là, vu que la glace tarde à se former sur l'eau et ils doivent le faire en bateau, ce qui est plus compliqué, plus coûteux. Puis c'est pas idéal dans une région qui est déjà en insécurité alimentaire de ne pas pouvoir avoir recours à ces techniques d'alimentation traditionnelles. Puis pour lui, ça illustre encore une fois pourquoi le Nord se réchauffe. On dit que le Nord se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète.
Oui, on a un hiver vraiment en dents de scie. Ben, même au Québec, là, aujourd'hui, à Montréal, je ne sais pas si vous, en Ontario, il fait doux, là, mais on annonce 6 degrés.
J'ai pas fait si doux ça, mais non, hein, c'était zéro ici hier. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus froid.
Oui, et rappelons que nous sommes le 14 janvier 2026. Merci, très cher Julien. À la prochaine.
Merci, au revoir.
Coup de tonnerre, nouvelle de dernière heure. François Legault démissionne au pouvoir depuis 2018, au plus bas dans les sondages depuis des mois. Le premier ministre François Legault jette l'éponge et démissionne, a appris la presse. Le fondateur de la Coalition Avenir Québec annoncera son départ lors d'une conférence de presse à 11 heures.